Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 25 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleaux. Bienvenue à Ça vaut le détour, une nouvelle édition qui commence la semaine. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter à @canal_m. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on découvre la mission et les activités de la Dynamique des personnes handicapées de Granby, qui défend des droits et sensibilise la population à la condition des personnes handicapées physiques ou intellectuelles ou en perte d'autonomie dans la MRC de la Haute-Yamaska. On parle avec Martine Bédard, coordonnatrice de la Dynamique des handicapés de Granby. Aujourd'hui, 25 avril, c'est la semaine du défi sportif Altergo qui débutait ce matin, ses premières compétitions qui accueillera plus de 5000 athlètes jusqu'au 1er mai. C'est l'événement le plus connu, mais le défi sportif contribue toute l'année à une meilleure inclusion sociale des jeunes en situation de handicap par le sport et les saines habitudes de vie. On s'entretient avec Mme Elsa Lavigne, directrice par intérim du projet Choisir de gagner, qui offre des outils aux enseignants en éducation physique pour faire des activités sportives inclusives. C'était la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur le 23 avril, samedi dernier, et on parlera de l'importance des livres adaptés aux personnes ayant une déficience perceptuelle. Je reçois en studio M. Gérald Cousineau, biographe pour le regroupement des aveugles et amblyope du Québec, et aussi chroniqueur littéraire à l'émission Des livres plein les oreilles sur Canal M et à Ça me regarde sur Ami Télé. Mais tout d'abord, on aborde la question de la sécurité chez les personnes aînées avec le programme PAIR, P-A-I-R, un service personnalisé d'appel automatisé pour la sécurité des aînés. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone Mme Hélène Champagne, secrétaire du comité provincial du programme PAIR. Bonjour Mme Champagne.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien vous-même.
Oui.
Alors, tout d'abord, comment est né le programme PAIR?
Le programme PAIR a débuté vers 1990. C'est une compagnie de Victoriaville, de logiciels qui a monté ce logiciel qui sert maintenant à faire ses appels un peu partout à travers le Québec.
Et comment est-ce que ça se passe exactement, ce système d'appel, parce qu'on parle d'appel automatisé?
Oui, donc ça veut dire que les personnes qui veulent s'abonner au programme, c'est d'abord gratuit à travers le Québec, et les personnes choisissent l'heure à laquelle elles veulent être appelées le matin. Je dis le matin, dépendant des agences paires, parce que les appels partent de différentes régions qui sont gérées par ce qu'on appelle, nous, des agences paires. Mm-hmm. Donc, la personne choisit l'heure à laquelle elle veut être appelée. Et si, au moment où son appel se fait, la personne ne répond pas, on va automatiquement rappeler le système, va rappeler une deuxième et même une troisième fois. Et s'il n'y a toujours pas de réponse après le troisième appel, c'est automatique. Les responsables vont enclencher une mesure de vérification, soit par des répondants qui vont se rendre à la maison vérifier ce qui se passe, ou dans d'autres régions, ce sont les policiers qui vont entamer la vérification.
Mm-hmm.
Ça, c'est une espèce d'appel que l'on fait, donc qu'on appelle de sécurité, mais depuis 6 ou 7 ans, le programme peut aussi faire des appels pour le rappel de médicaments. parce qu'on sait que notre population est de plus en plus âgée. Ils ont parfois, certaines personnes, des difficultés à gérer leurs médicaments, soit qu'ils oublient de les prendre ou les prennent en double. Donc, on peut faire les appels de médicaments, ça peut se faire même 4-5 fois par jour, puisque si la personne ne répond pas, il n'y aura pas d'alerte enclenchée.
Mm-hmm. Donc, c'est deux modèles d'appels différents.
Oui.
Et ces appels, si on parle de par exemple, ces premiers appels de vérification de sécurité,
oui. On
a dit que parfois, s'il n'y a pas une première réponse, on peut rappeler une deuxième fois, une troisième fois. Dans une journée type, ça représente quoi? Est-ce que le deuxième appel il est effectué 15 minutes plus tard ou plutôt une heure
minutes.
Plus tard? Aux 5 minutes.
Aux 5 minutes.
OK, donc c'est vraiment, faut pas être dans sa douche ou occupé à faire autre chose au moment où ça appelle.
Par contre, les personnes qui s'abonnent, ce sont elles qui choisissent l'heure et elles savent. Puis de façon générale, quand les responsables vont rencontrer les gens pour les abonner, on leur rappelle vous avez choisi d'être appelé à 9 heures, donc essayez d'être près de votre téléphone. Puis si jamais vous avez une urgence, bien c'est sûr qu'on va rappeler là. Ça va se faire dans l'espace de 15 minutes. Donc, si la personne avait eu une urgence à quelque part, elle a le temps de récupérer, là.
Mm-hmm. Et justement, Mme Champagne, vous disiez que ces appels partent de différentes agences pairs.
Oui.
Comment est-ce que ça fonctionne, justement, dans chaque région? Ça provient d'un organisme sur place?
Les personnes qui gèrent le programme PAIR, il y a à peu près 60 % de nos agences, ce sont des centres d'action bénévole qui les opèrent. Donc, il y a un ordinateur qui est réservé à notre programme duquel partent les appels téléphoniques. Il y en a d'autres dépendant des régions au Québec, que ce soit Sherbrooke. Il y a plusieurs endroits, ce sont des services policiers. Donc, les systèmes sont installés directement au poste de police. On en a 68 agences à travers le Québec actuellement. On couvre à tout près de 900 municipalités.
900 municipalités réparties au Québec, c'est important.
Absolument.
Est-ce que les aînés sont votre seule clientèle?
À l'origine, c'était la seule clientèle, mais on s'aperçoit avec le temps qu'il est arrivé des moments où il y avait des couples, par exemple, où une des deux personnes était malade, donc l'autre personne du couple était le répondant. Donc, on abonne nécessairement ces gens-là. Et il y a toujours des cas d'exception. Moi, j'ai vu à un moment donné une personne qui avait à peine 50 ans, mais qui était épileptique.
Mm-hmm.
Donc, dans le fond, à l'origine, c'est pour les aînés, mais on s'ajuste aux besoins de la population, dans le fond.
Oui, donc, par exemple, est-ce qu'une personne qui prend soin de son conjoint ou sa conjointe, qui est une personne handicapée, pourrait avoir accès à ce service?
Absolument, absolument, parce que si l'aidant lui arrive quelque chose une journée, qu'elle tombe, peu importe, bien, c'est absolument important qu'il y ait quelque chose qui se passe pour pas que la personne handicapée demeure seule en état de panique, là.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et combien d'abonnés est-ce que vous avez avec le programme PAIR?
Les dernières statistiques, on est en train de finaliser notre année civile, là.
Mm-hmm.
On avait tout près de 5 000 abonnés à travers le Québec.
5 000 abonnés et je lisais sur votre site qu'il y a eu plus de 500 vies sauvées.
Dans les 5 dernières années, oui. Toutes sortes de raisons. Quelqu'un, une connaissance à un moment donné, une dame qui, en prenant son bain le soir, n'a jamais été capable de ressortir, donc elle passait 15 heures là. Donc, il y a des gens, des vies qu'on sauve, là, c'est ça, 500 à peu près dans les 5 dernières années pour toutes sortes de raisons. parfois, au bout de la ligne, quand les personnes sont secourues, sont amenées à l'hôpital, dépendant des besoins, il arrive que la personne décède au bout de ça, mais au moins, ça s'est fait dans la dignité, puis elle n'est pas restée là 3-4 jours avant que quelqu'un s'aperçoive que la personne lui est arrivé quelque chose d'important ou même décédé, mm-hmm. comme on a vu.
Et oui, comme malheureusement, ça oui. arrive, ça arrive encore.
Ça arrive encore,
parfois.
Oui.
Qu'est-ce que, si par exemple, on a besoin de ce programme-là, est-ce qu'on vous contacte directement ou il faut peut-être être référé par un travailleur social? Comment ça fonctionne?
De façon générale, les gens qui veulent s'abonner pour recevoir les appels de sécurité, ce sont elles qui nous contactent. Souvent, c'est les enfants aussi, parce que les familles sont moins nombreuses, les enfants sont éloignés, les enfants sont inquiets pour leurs parents qui demeurent seuls. Donc, souvent, c'est soit la personne elle-même ou la famille qui nous contacte. Sur le site Internet, là, à www.programmepere.com, il y a un onglet ou quelqu'un qui veut vérifier si le service est offert dans son coin va trouver les informations à cet endroit-là. Pour la partie médicaments, c'est plus, on a une très belle collaboration des CLSC là, qui vont nous référer leur clientèle là, à domicile pour qu'on les rappelle une, mm-hmm. deux, trois. J'ai même déjà vu quelqu'un être appelé 9 fois par jour. Parce qu'elle prenait beaucoup, beaucoup de médicaments. Là. Donc, on s'est ouvert là, presque sans aucune restriction.
Mm-hmm. Et bon, je le rappelle, c'est un service qui est gratuit.
Oui.
Comment arrivez-vous à financer ce programme?
Difficilement. En 2009, on avait eu une subvention du ministère de la Famille de 1 400 000 pour ouvrir des agences à travers la province parce qu'on était à peu près, on était autour de 30 à 35 agences à ce moment-là. Dans l'espace de 4 ans, on est monté à 70 où on touchait là, toutes les MRC à travers la province. On en a eu une deuxième subvention à un moment donné qui nous a donné la possibilité d'engager des agents de développement. Mais là, on est sans subvention depuis l'année dernière, donc on court après les sous.
Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour contribuer?
Concrètement, actuellement, notre bouton pour faire des dons est en train de le retravailler parce qu'on a eu un problème. Mais en allant sur le site Internet, ça peut être par des chèques, l'adresse du bureau est là. Mais on est en train de s'associer là, avec Canadon là, pour lequel mm-hmm. On peut faire des dons.
Bon, on vous souhaite vraiment de trouver des gens à se rallier en fait pour pouvoir contribuer. C'est troublant d'entendre que vous avez besoin de courir après des subventions quand vous avez démontré depuis plusieurs années l'importance de votre rôle en prévention, justement, et de continuer à sauver des vies. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui du programme PERE qui est disponible partout. Vous êtes secrétaire du comité provincial.
C'est
et
ça.
Hélène Champagne, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci infiniment de la visibilité. Merci.
Je marchais sur le trottoir. Les idées vagues, les yeux. J'ai trouvé un sou noir. Il tombait pile dans la lumière. L'air de rien sans me faire voir. Je l'ai glissé dans mon soulier. Je venais de faire le plein d'espoir. Un petit rien, c'est beaucoup. Quand on attend rien du tout. croire. Un petit rien, c'est beaucoup. Mais quand on attend rien du tout, un petit rien, c'est suffisant pour aller de l'avant, pour aller de l'avant.
France d'amour avec sa pièce Un sou noir tirée de son album Bubble Bath and Champagne 2. Donc, après avoir vu le succès du premier, et parce que c'est toujours agréable, un bain avec des bulles et du champagne, on a décidé d'en faire un deuxième album. Je le mentionnais en début d'émission, samedi dernier, c'était la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et j'accueille en studio M. Gérald Cousineau, biographe pour le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et chroniqueur littéraire à l'émission Des livres plein les oreilles ici à Canal M. Bonjour, Monsieur Cousineau.
Bonjour, Maxime.
C'est une première fois dans Ça vaut le détour cet hiver. On est content de vous recevoir. Vous êtes déjà présent, vous êtes déjà chroniqueur à l'émission Des livres plein les oreilles, animée par Clotilde Seil, et aussi à Ça me regarde sur les ondes de Ami Télé. Vous avez toujours été un grand lecteur.
En fait, j'ai commencé à lire comme tout le monde quand j'étais à l'école primaire. Et comme on n'avait pas de livres à la maison, eh bien, je les cherchais ailleurs, à l'école, puis au collège, à l'université. Et pour moi, tantôt on parlait de la Journée mondiale du livre. Pour moi, c'est chaque jour la Journée du livre. Je n'en sors pas.
Et j'aimerais que vous qu'on prenne le temps de dire à nos auditeurs qu'on parle un peu de votre condition, parce que vous êtes une personne aveugle.
Je suis presque aveugle maintenant. Je suis né avec une... Je dis presque parce que je vois encore un peu ce qui apparaît à mon écran d'ordinateur, mais je suis né avec ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire. C'est une maladie visuelle assez répandue chez les personnes handicapées de la vue. Et le propre de cette maladie, c'est que la vue baisse. Alors, dans mon cas, j'ai dépassé 60 ans. Alors, je ne vois plus grand-chose. Mais heureusement, j'ai encore de bonnes oreilles.
Mm-hmm, justement, et donc, c'est là où est-ce que le livre audio est entré dans votre vie?
Ne connaissant pas le braille, je recours beaucoup aux livres audio. J'ai appris, bien sûr, à télécharger. Je commande des CD à l'occasion. Donc, le livre audio occupe autant de plats dans ma vie que le livre papier en a occupé pendant, je dirais, 40 ans peut-être.
Mm-hmm. Combien d'heures passez-vous par semaine à écouter des livres?
La question. Par semaine, je ne sais pas, je pourrais dire que je peux lire 3, 4 ou 5 livres par semaine. Alors, ça peut faire facilement, peut-être 40, 50 heures. Il y a des semaines qui sont plus importantes que d'autres, mais je lis beaucoup, effectivement. Il n'y a pas une journée où je ne lis pas, ne serait-ce qu'une heure. C'est une drogue. Je l'avoue, je me drogue, Maxime.
Mais je crois que c'est quand même considéré comme une drogue très, très douce, la littérature.
Je suis rassuré.
Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. En fait, je ne pense pas avoir dénoté vraiment des problèmes d'addiction du côté de la littérature.
D'accord. C'est une belle dépendance. C'en est une très belle.
Exactement, qui apporte beaucoup... Est-ce que, justement, ce livre audio, c'est important parce que, vous le mentionnez, vous ne connaissez pas le braille. On a souvent cette tendance à croire que toutes les personnes malvoyantes ou aveugles apprennent le braille, connaissent ce médium, si on veut, cette manière de communiquer les mots. C'est pas le cas.
Non, c'était plus vrai il y a 30, 40, 50 ans, où là, beaucoup de personnes handicapées de la vue allaient automatiquement à Nazareth, par exemple. Et là, mm-hmm. le braille était obligatoire. Moi, je passais par des écoles régulières, donc je n'ai pas connu le braille. J'aurais pu l'apprendre. D'ailleurs, j'ai commencé à l'apprendre, mais comme je suis très paresseux, j'ai abandonné après 3 leçons. Je trichais, je regardais avec mes yeux. Alors, ce n'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, je pense que le braille est moins enseigné, ne serait-ce que par la prédominance de l'audio.
Mm-hmm.
Les jeunes, aujourd'hui, ont accès à plein de gadgets qu'on n'avait pas, nous, il y a 30-40 ans. Donc, je ne sais pas. Bon, il y a des endroits comme l'école Jacques Ouellet à Longueuil où on enseigne le braille, mais je ne sais pas chez les jeunes aujourd'hui si le braille a autant d'importance qu'il en avait, disons, il y a 30 ou 40 ans. Mm-hmm. Je ne crois pas, je ne crois pas.
Mm-hmm. Comment vous vous procurez vos livres?
Oh, c'est très facile. Hein. Au Québec, nous avons accès aux bibliothèques numériques de l'INCA, du SQLA, que le Service québécois du livre adapté. Et moi, comme je disais tantôt à une collègue, je suis devenu membre d'une 3e bibliothèque numérique, une française, c'est là la bibliothèque Valentin Ahuy, grâce à M. Gérard Saint-Denis qui m'a mis sur la piste. Et donc, avec l'ordinateur, bien sûr, on va sur les sites des bibliothèques numériques, on explore, on cherche tel titre ou tel auteur, et bon, 2 fois sur 3, on trouve ce qu'on veut. Et si le livre n'est pas disponible en ligne, ben, on peut le commander. Alors, on le reçoit sous forme de CD.
Mm-hmm.
Mais plusieurs, maintenant, sont disponibles en ligne. Donc, on les télécharge. C'est merveilleux. On n'a pas à se déplacer. Le matin, vous avez... Tiens, aujourd'hui, j'aurais envie de lire tel auteur. Vous allez voir, ah, tel livre est disponible. Vous le téléchargez et vous l'avez quelques minutes après. C'est fantastique.
Mm-hmm. Est-ce que vous vous concentrez principalement sur les auteurs québécois et canadiens ou vous pêchez aussi à l'international?
Oh, je suis très, très éclectique. Je suis vraiment international. Et je dirais même que j'ai tendance à fouiller davantage du côté européen, africain, asiatique. Parce que, bon, les titres québécois sont facilement disponibles, c'est normal. Mais les titres européens, africains, asiatiques sont plus rares. Donc, quand je peux tomber sur un auteur que j'aime beaucoup et dont les titres sont disponibles, eh bien, je vais aller de ce côté-là. Bien sûr, on n'a pas tout, mais on a quand même de belles surprises à l'occasion. Cela dit, je lis beaucoup de livres québécois. Mais je suis très curieux. Je suis très mm-hmm. curieux et j'espère rester curieux.
Mm-hmm. Est-ce que vous lisez seulement en français?
Je dois avouer que oui, Maxime. Un autre péché que je confesse, je lis. Je pourrais à la rigueur écouter en anglais, mais mon anglais n'est pas assez bon. Je ne saisirais pas les métaphores, les blagues, les mm-hmm. figures de... Enfin, alors, je préfère écouter en français, mais c'est un regret dans ma vie. J'aimerais bien pouvoir maîtriser 4 ou 5 langues. Écouter Cervantes en espagnol, ce serait merveilleux. Mais je n'en suis pas là, malheureusement.
Pas encore, du
moins. Pas encore, c'est vrai. Merci, Maxime.
Monsieur Cousineau, lorsque notre vue diminue, il faut parfois faire une forme de deuil de certaines formes d'art, par exemple les arts visuels, la peinture, parfois même le cinéma, lorsqu'il n'est pas disponible, entre autres en vidéo description. Est-ce que ça augmente cet apport de la littérature à notre vie à ce moment-là?
Ben, c'est pas pour rien si je lis davantage maintenant parce que moi, j'étais cinéphile. J'aimais beaucoup aller au cinéma. Je n'y vais plus. Et ça, c'est une grande tristesse dans ma vie. J'aimais beaucoup la peinture. Maintenant, je ne peux plus la voir. Ça aussi, c'est triste. J'ai chez moi une reproduction d'une toile de Vermeer, mais je la vois à peine. C'est mm-hmm. dommage. Donc, j'aimais beaucoup le cinéma, la peinture. Bon, j'ai mis une croix dessus, là-dessus, et je me... maintenant, c'est la littérature, les livres, mais dans les livres, on trouve de tout, y compris des livres sur le cinéma ou des livres sur la peinture. Donc, je peux rejoindre par la littérature ce que j'aimais beaucoup avant et qui est extérieur à la littérature.
Tout à fait. Donc, vous alimentez tout de même vos passions avec cette littérature.
Oui. Par exemple, moi, je voyage très peu, mais il y a énormément de bons récits de voyage. Alors, je voyage énormément grâce aux livres, toujours.
Justement, vous avez déjà dit sur nos ondes que ça vous permettait de voyager. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec tous ces livres que vous allez chercher de différents continents, de différents pays.
Oui.
Je voulais aborder avec vous cette question-là du droit d'auteur. Récemment, il y a le projet de loi C-11 au fédéral mm-hmm. Qui a été déposé pour ratifier, que le Canada ratifie ce traité de Marrakech qui a été signé en 2013 et qui permet de faciliter l'échange de livres audio entre entre différents pays. Pour vous, c'est une bonne nouvelle, ça.
Ben moi, le jour où j'aurai accès facilement à plein de bibliothèques numériques, et là, je m'en tiens aux francophones, là, mm-hmm. ben tant mieux, hein, tant mieux. Actuellement, je peux jouer dans 3 bibliothèques, mais plus il y en aura, et plus le choix sera vaste, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout trouver au SQLA, on ne peut pas tout trouver à l'INCA. Alors, plus il y aura de bibliothèques accessibles, mieux ce sera pour les lecteurs, disons, un peu maniaques comme moi, là. Un peu.
Vous êtes chroniqueur à l'émission « Des livres plein les oreilles », qui est diffusée oui. le jeudi à midi à Canal M. C'est un grand plaisir pour vous de partager, évidemment, vos découvertes. Est-ce que votre écoute change lorsque vous écoutez un livre audio, vous faites la lecture, si on veut, lorsque c'est pour le plaisir et lorsque vous savez que vous devez venir le présenter à l'émission?
C'est vrai, la question se pose parce que, évidemment, si je lis un livre sans me dire que je vais en parler à la radio ou à la télé, là, je peux prendre ça plus cool, disons, entre guillemets. Là. Je peux me permettre d'être parfois un peu distrait ou surtout dans des passages moins intéressants. Mais quand je choisis un livre et que j'ai le coup de foudre tout de suite, je me dis « Ah, ça serait bien d'en parler. » Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écouter. Mm-hmm. Et après, je le réécoute plus lentement et là, je prends des notes. Mm-hmm. Mais la première fois, je m'observe et je ne prends pas de notes. À la deuxième écoute, d'abord, c'est un test, à savoir si la deuxième écoute sera positive. Et généralement, ça marche. Mais effectivement, le problème, c'est que quand je lis un livre, je ne sais pas à l'avance s'il va me plaire suffisamment pour que j'en parle à la radio ou à la télé. Alors, je dois porter attention. Mais j'aime cette espèce de défi permanent que c'est devenu. Là.
En terminant, il nous reste quelques secondes. Votre dernier coup de cœur littéraire, le plus récent?
Ben, j'ai parlé ce matin de deux livres que j'ai beaucoup aimés, « Les maisons » de la Québécoise Fanny Britt et « Quand j'étais Théodore Seaborn » du Québécois Martin Michaud, deux livres qui m'ont énormément plu.
Et on va découvrir ça dans « Des livres plein les oreilles », donc les prochaines diffusions. C'est diffusé le jeudi à midi. Merci beaucoup pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur
Au
vous.
Au plaisir.
On peut consulter l'audioportrait du 15 septembre 2015. Gérald Cousineau, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci.
Moi de même. Merci.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clé CVLD ou sur Twitter, @canal_m. Et j'en parlais en début d'émission, le défi sportif Altergo qui vient de démarrer, qui a commencé aujourd'hui ses compétitions. C'est 5000 athlètes qu'on va retrouver à Montréal jusqu'au 1er mai. C'est évidemment l'événement le plus connu du défi sportif, mais le défi est quand même actif tout le reste de l'année, entre autres dans les écoles où il donne des outils aux enseignants en éducation physique pour bien inclure les jeunes en situation de handicap dans les activités des groupes réguliers. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone Mme Elsa Lavigne, directrice par intérim du projet Choisir de gagner. Bonjour Mme Lavigne.
Bonjour.
Donc, récemment, en fait, avec le projet Choisir de gagner, vous avez développé des petites capsules vidéo dans le but d'informer les enseignants sur les possibilités, les stratégies à adopter pour inclure des jeunes.
Exactement. On a lancé ce projet il y a quelques semaines afin d'outiller les enseignants qui avaient des jeunes en intégration, en fait, dans des classes au régulier, puis qui n'avaient pas forcément d'outils. Donc, on a fait des petites capsules, on en a sorti 5, on est très contents.
Et pouvez-vous nous parler un peu plus en détail des thèmes qu'on retrouve dans ces capsules?
Oui, bien sûr. En fait, on s'est basé sur le concept de littératie physique inclusive. Donc, ça parle pas forcément à tout le monde, mais littératie physique, dans le fond, c'est ce que les mots sont au langage, mais au niveau du mouvement. Donc, quand on apprend à parler, par exemple, on apprend d'abord les lettres, ensuite on apprend les mots, ensuite on peut faire des phrases et puis on finit par faire des textes. Donc la littératie physique, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau du corps. Donc c'est d'adopter la confiance en fait et la compétence dans le plaisir pour adopter un mode de vie actif tout au long de sa vie. Donc c'est tant au niveau de déplacement que de la manipulation d'objets, des sauts, de tournées, et ce dans plusieurs environnements, donc sur la glace, dans l'eau, sur le sol. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de présenter aux enseignants, en mettant en vedette des enseignants qu'on connaît bien, qui participent aux défis sportifs, puis qui ont l'habitude de travailler avec ces clientèles-là. Mmh. On les a interrogés pour qu'ils puissent donner des outils concrets et pour motiver aussi leurs collègues du régulier.
Est-ce que, justement, le concept de littératie physique inclusive, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà enseigné? Est-ce que c'est quelque chose que les enseignants peuvent voir, par exemple, durant leur formation, mais n'applique pas nécessairement sur place, ou c'est vraiment quelque chose de nouveau?
C'est quand même assez récent au Canada en tant que tel, là, de la façon dont c'est conceptualisé, parce qu'en éducation physique, on va apprendre les mouvements fondamentaux de base. C'est un peu comme ça qu'ils apprennent dans les cours d'éducation à l'université avant de devenir enseignant. Mais ça s'applique seulement au mouvement. Tandis que ce que la littératie physique vient ajouter à ça, c'est un petit peu les notions de plaisir, de confiance en soi, qui ne s'arrêtent pas juste à la capacité de faire un mouvement avec son bras du point A au point B, mm-hmm. mais c'est la capacité d'être à l'aise dans ce mouvement-là et de pouvoir l'appliquer à d'autres situations. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours, tout au long de la vie.
Mmh, donc, pas seulement non plus dans le cadre d'un cours d'exercice d'éducation physique, par exemple, à l'école.
Non, pas du tout. C'est ça. C'est dans tous les cercles possibles de la vie quotidienne.
Est-ce que ce concept est au cœur du programme Choisir de gagner?
Pas tout à fait, mais c'est un outil très intéressant pour nous, parce que nous, ce qui est au cœur de notre programme, c'est les saines habitudes de vie. Donc, pour les saines habitudes de vie, on remarque qu'il y a plusieurs concepts qui peuvent venir nourrir ça, puis donner cette confiance-là aux jeunes pour les adopter. Donc ça peut être la littératie physique, mais c'est aussi l'accessibilité universelle. Donc dans les vidéos, notre première vidéo est une capsule d'introduction qui va venir présenter ce qu'est la littératie physique et l'accessibilité universelle comme des outils pour en fait rattraper les statistiques qu'on peut constater chez les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Là, c'est 2 à 3 fois plus d'obésité. Mm-hmm. Donc si on agit sur l'accessibilité universelle et puis qu'on leur donne plus d'outils pour être actifs, éventuellement cette statistique va être un petit peu moins importante. Donc c'est un petit peu ça l'introduction. Là, si vous voulez regarder cette capsule, c'est la mise en contexte. Donc on va présenter pourquoi ces jeunes-là sont moins actifs et comment on peut faire pour les aider.
Mm-hmm. Oui, justement, parce que bon, on parle de prévention, entre autres, pour garder un corps en santé, mais un esprit en santé aussi, parce que le sport est souvent un moyen de développer son réseau, sa confiance en soi.
Exactement.
Il y a beaucoup d'impact au niveau physiologique.
La persévérance scolaire aussi, là, ce qu'on note beaucoup. Cool, là, c'est que des jeunes qui font partie d'une équipe sportive ont beaucoup plus le goût d'aller à l'école puisqu'il y a quelque chose qui va les attirer davantage. Donc, par exemple, là, on le voit aujourd'hui au défi sportif, là, mmh. il y a beaucoup de jeunes qui n'auraient pas eu l'occasion de pratiquer un sport d'équipe et en ayant cette occasion-là au sein de leur école, ça leur donne une motivation toute l'année pour s'entraîner et pour éventuellement participer à une compétition. Donc, ça les encourage à rester à l'école aussi.
Mmh. Mmh. Pourquoi avoir choisi le format des vidéos?
En fait, cette année, on avait un peu plus de difficultés à rejoindre les commissions scolaires parce que vous êtes au courant du contexte. Là, il y a eu plusieurs moyens de pression. Donc, c'est sûr que c'était plus difficile pour nous de nous déplacer. Donc, on s'est dit, on peut pas rester comme ça. C'est la dernière année du projet. Il faut qu'on donne des outils à ces enseignants-là. Donc, on a trouvé cette solution qui est la vidéo. Au début, on voulait faire des webinaires qui sont un peu des formes de séminaires, conférences, en ligne, mais on s'est dit qu'on voulait aussi en faire un outil vraiment de promotion qui vienne motiver les gens, donc on s'est tourné vers ces capsules-là, ce qui nous permet de rejoindre un réseau beaucoup plus important, puisqu'en plus, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais elles vont être bilingues, on les a enregistrées avec certains intervenants anglophones, mm-hmm. et d'ici 2 ou 3 jours, on va recevoir des sous-titres qu'on va pouvoir intégrer directement aux vidéos, donc elles pourront être regardées en français, en anglais, et aussi accessibles pour les personnes qui ont une déficience auditive.
Mm-hmm. Et c'est justement dans le contenu, on l'a abordé brièvement, le contenu qu'on retrouve dans certaines de ces capsules. On parle de sport dans l'eau, sur mm-hmm. la glace, au sol. Avez-vous des exemples, un exemple à nous donner justement de qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel, par exemple, pour nous aider à inclure un jeune en situation de handicap dans un sport dans l'eau?
Bien sûr, on peut avoir toutes sortes d'objets flottants, je dirais, qui peuvent aider le jeune à se familiariser, avec le milieu s'il ne sait pas nager directement. Ça vient l'aider en fait au niveau de sa confiance. Souvent, ce qu'on va conseiller, par exemple, c'est avant de faire le grand saut, c'est de s'asseoir juste au bord du bassin, puis de s'amuser un petit peu avec l'eau, d'utiliser des éponges, des choses comme ça. En fonction de la clientèle, on utilise l'aide de personnes, bénévoles ou enseignants, qui vont venir aider les jeunes à tenir dans l'eau, ou alors des outils plus techniques. Mais donc ça, pour l'eau, c'est je dirais que c'est plus la peur de l'eau sur laquelle il faut travailler. Donc on va y aller dans les stratégies de communication. Mm-hmm. Mais pour la glace, par exemple, un jeune qui a une déficience motrice pourra s'installer en fait sur des patins qui sont sous une luge. Donc au lieu d'être debout, il va être dans une luge sur patins. Ça peut être ça. En fait, on a ciblé quatre principaux éléments qu'il faut prendre en compte pour l'adaptation là, en fonction de ces différents milieux. C'est l'environnement physique, d'abord. Mm-hmm. Ensuite, c'est la communication, qui est vraiment très importante. C'est les stratégies de l'intervenant au niveau de comment il va enseigner les tâches, comment il va adapter les tâches. Et la quatrième m'échappe, mais dans le fond, c'est ça, on essaye d'englober vraiment toutes les possibilités pour inclure ces jeunes.
Mm-hmm, tout à fait, et je sais que ça fait partie aussi du travail des intervenants de d'abord se renseigner sur la limitation fonctionnelle du jeune pour voir, et même le jeune parfois a souvent développé ses propres stratégies.
Exactement.
Aussi,
mm-hmm.
Et donc de les inclure. Qui sont les intervenants avec qui vous avez travaillé pour l'élaboration de ces capsules?
En fait, on a travaillé surtout avec des intervenants qu'on connaît bien puisqu'ils viennent depuis des années au défi sportif. Donc ça va être des enseignants dans des écoles spécialisées ou auprès de classes spécialisées de différentes clientèles. Donc on a vraiment essayé de viser assez large. On a aussi des gens qui travaillent dans des centres de réadaptation qui nous ont donné un coup de main. Un enseignant en activité physique adaptée. Puis c'est ça, différents organismes aussi qui ont développé une expertise spécifique auprès de certaines clientèles. Parce qu'on est parti du principe que nous, on n'a pas l'expertise. On a l'expertise de terrain à l'interne avec le défi sportif, mais on ne peut pas connaître 100% les limitations de chaque jeune. Mm-hmm. Mais comme on a ces gens-là à disposition, en tout cas, on a un très bon contact avec eux, puis on leur fait confiance, on a décidé de leur donner la parole puisque c'est vraiment eux nos ambassadeurs.
Est-ce que c'est une demande que vous avez reçue peut-être du corps professoral ou c'est plutôt un besoin que vous remarquez de justement, parce qu'on parle, les intervenants qui ont contribué travaillent dans des écoles spécialisées. On sait que dans les écoles spécialisées, il y a souvent les ressources nécessaires. Il y a une ouverture, une sensibilisation qui est peut-être moins présente dans le réseau régulier.
Mm-hmm.
Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'était une demande du réseau régulier ou c'est plutôt un besoin que vous avez remarqué et que vous venez répondre?
C'est un peu les deux parce qu'on se déplace beaucoup dans les écoles depuis les trois dernières années puis on a rencontré beaucoup d'enseignants du régulier. Et en effet, ils ne cessent pas de nous dire qu'ils manquent d'outils. Ils manquent d'outils, ils manquent de temps aussi souvent pour aller faire leurs recherches. Donc ce format-là était intéressant pour nous, justement parce qu'il y a un gros besoin. Souvent, ces enseignants voient des jeunes qui ont une limitation une fois de temps en temps. C'est jamais le même jeune, c'est jamais la même limitation. Donc souvent, ils ne savent pas quoi faire et ils n'ont pas forcément le temps de se renseigner puisqu'ils en ont 30 dans leur classe. Donc on s'est dit avec un format court comme ça, donc c'est 5 vidéos de à peu près 3 à 5 minutes, on était capable de leur donner un condensé d'outils qu'ils pourront utiliser et aussi surtout une source de motivation.
Tout à fait. Donc, si ces enseignants veulent avoir plus d'informations une fois qu'ils ont visionné les capsules, comment est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'il y a d'autres types d'outils à leur disposition avec le projet Choisir de gagner?
Oui, exactement. En fait, toutes les stratégies dont on a parlé tout à l'heure et qui se retrouvent dans les vidéos, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. C'est des choses qu'on a trouvées dans des ressources qu'on a récoltées un petit peu partout, sur Internet notamment, et pas seulement au Québec aussi. On a des ressources en anglais puis des ressources qui viennent d'Europe. Et on a travaillé très fort pour condenser tout ça sur le site choisirdegagner.com. Donc, il y a une section ressources dans laquelle il y a de nombreuses ressources disponibles, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les intervenants plus au niveau, je vous dirais, des décideurs. En ce qui concerne l'accessibilité universelle, il y a des ressources très pratiques, il y a des plans de cours du Comité paralympique canadien, on a des plans de cours de certaines fédérations, par exemple l'Association des sports pour aveugles du Québec. On a vraiment beaucoup de ressources pour les enseignants à cet endroit-là.
Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui de nous parler de ces nouvelles capsules vidéo et ce concept de littératie physique inclusive que, pour ma part, j'ai découvert aujourd'hui. Vous êtes au défi sportif toute la semaine.
Oui.
On vous souhaite... Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
Oh, ça se passe très bien. Aujourd'hui, c'était la première cérémonie d'ouverture. Donc, on a accueilli plus de 600 jeunes. C'était un très beau moment.
Ben, on vous souhaite vraiment une belle semaine remplie de belles compétitions. Ça va être à surveiller, évidemment, sur les ondes de Canal M. On va pouvoir aussi vous faire certains comptes rendus chaque jour. Elsa Lavigne, vous êtes directrice par intérim du projet Choisir de gagner. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup. Au revoir.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant on crèvera tous comme des rats.
Hey.
La plume percutante de Stromae avec sa pièce Carmen, tirée de son album Racine carrée, parution de 2013. Mais vraiment, on peut constater que c'est toujours aussi actuel et pertinent. Vraiment, une de mes pièces préférées. J'en parlais en début d'émission. On termine, ça vaut le détour aujourd'hui, en se tournant vers une région du Québec. Je joins au téléphone Mme Martine Bédard, coordonnatrice de la Dynamique des handicapés de Granby. Bonjour!
Ben bonjour.
Ça va bien?
Ben oui, ça va bien, et toi?
Ça va très bien, merci. Donc, je vais tout de suite vous demander de nous présenter la mission de votre organisme.
En fait, nous, ce qu'on fait, la défense des droits et la promotion des intérêts des personnes handicapées.
C'est tout simple, mais en même temps, ça inclut tant de choses. Que faites-vous concrètement?
Bien, c'est sûr qu'on fait la défense beaucoup au niveau de l'accessibilité universelle pour que les commerces, aussi les résidences, les immeubles soient accessibles pour nos personnes handicapées versus au niveau aussi service santé par rapport au maintien à domicile. Donc, et le transport adapté aussi.
Ce sont quand même trois grands axes, trois grands segments. Est-ce que vous êtes basé à Granby? Est-ce que vous desservez seulement la ville ou aussi le reste de la région?
C'est la région. Donc, on dessert Haute-Yamaska, c'est-à-dire Ruston Pond, Waterloo, et puis on a Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Alphonse. Alors, c'est vraiment l'axe. Et on dessert aussi Saint-Foy-de-la-Bertrand, mais seulement pour le dossier du transport adapté, parce que c'est le transporteur de Granby qui les fait. Donc, c'est pour ça, c'est juste cette petite région-là, là, qui est comme à faire de la Haute-Yamaska.
Donc, c'est ça, ça va dépendre des dossiers dont vous vous occupez.
Voilà.
Quel service est-ce que vous offrez à vos membres?
Ben, nos membres, en fait, ils peuvent venir participer à des comités de travail. On a le comité journal, on a un comité qu'on appelle C'est mon droit, où est-ce qu'on se rassemble pour parler de certaines choses d'actualité, puis faire des actions, ou soit faire une lettre d'appui, soit ça peut être une revendication auprès d'un commerçant, quelque chose. Donc, c'est plus ça, parce que nous, on fait beaucoup de la défense des droits collectifs. Donc, il n'y a pas vraiment de un à un. C'est pas de l'individuel, sauf que c'est sûr que quelqu'un qui arrive qui a un problème, où on va l'écouter, puis on va essayer de le diriger à la bonne place, en fait. Là où est-ce qu'on fait plus l'individualisation, c'est au niveau du transport adapté, s'ils ont une plainte à faire, qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, mais on va les accompagner pour les aider à formuler une lettre de plainte. Parce qu'il n'y en a pas ici en région, donc...
Il n'y a pas de bureau en région pour le transport, vous voulez dire?
Ben, je veux juste le dire, un organisme qui appelait les regroupements des usagers en transport adapté, les RUTA. Nous, en région, ici, on n'en a pas. Le plus proche, c'est Saint-Hyacinthe, mais ça fait trop loin. Fait que c'est nous, l'organisme, qui desservons les usagers pour le transport adapté.
Tout à fait. Donc, vous servez aussi, justement, d'accompagnateur ou d'intermédiaire à ce moment-là pour ces demandes au niveau du transport. Est-ce que, vous faites de la défense de droits collectifs. Quelles sont les demandes ou les obstacles que vos membres vous ramènent le plus souvent?
Le plus souvent, c'est les trottoirs. Souvent, les coins de trottoir ne sont pas tout à fait assez rabaissés. Et au niveau des commerces, c'est ça que ça, c'est les plus gros là qui me rapportent beaucoup. Au niveau commerce, des fois, ben c'est la salle de bain qui manque, soit une voie d'appui, soit... Fait que ça, c'est ce qui me revient beaucoup, beaucoup.
Comment est-ce que vous faites, justement, si on pense au trottoir, c'est au niveau municipal, si on pense au commerce, c'est du domaine privé, comment est-ce que vous faites pour sensibiliser ces gens-là?
Bien, nous, ce qu'on fait, on va écrire des articles dans les journaux ou on va aller directement vers le commerçant où est-ce qu'il y a eu une petite lacune, on va essayer d'y expliquer, lui démontrer la problématique, c'est quoi l'obstacle, puis on essaie de lui donner des solutions. Ça, c'est quand on a fait le commercial. Au niveau de la ville, on est très proche d'eux, donc on travaille beaucoup avec eux pour le plan d'action, surtout à Granby. Là, je sais que les petites régions autour, ça va se travailler pour les prochaines années. Eux aussi, ils veulent avoir leur plan d'action et leur politique aussi. Donc, avec la ville, c'est ça, on est très, très proche. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on dit comme là, pour la prochaine année, on veut travailler au niveau des parcs. Les parcs soccer, parcs pour les enfants, les jeux, parce qu'il y a des endroits qui sont pas accessibles. Si on prend exemple, une maman en fauteuil avec ses enfants, elle peut pas aller proche des jeux parce que le contour il est pas fait pour ça, ou il y a des copeaux de bois, fait que ça en fauteuil roulant, surtout manuel, même motorisé, on peut pas aller là-dessus. Donc on essaye de travailler ça pour avoir beaucoup plus d'accessibilité,
surtout universelle.
Oui.
Je lisais justement durant la semaine québécoise des personnes handicapées, qui est du 1er au 7 juin, vous remettez un prix orange de l'accessibilité. J'imagine que c'est l'inverse d'un prix citron.
Oui, C'est ça. Fait que nous, on le remet au commerçant qui a fait une amélioration parce que c'est ça qui est l'important pour démontrer aux autres autour que les gars, lui, il l'a fait, donc c'est possible.
Mm-hmm.
Fait que c'est, des fois, c'est un rien. Fait qu'on les remercie, puis à date, ceux à qui on les a remis, ils sont vraiment contents de ça. Ils en parlent beaucoup.
Et c'est une fierté pour eux de se rendre compte qu'ils sont justement accessibles à une nouvelle clientèle.
Oui, oui.
Et
puis et cette clientèle-là, c'est des consommateurs, hein, on ne veut pas. Ils consomment comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, ils ont un droit, de pouvoir bénéficier des espaces commerciaux ou résidentiels, peu importe.
Tout à fait. Et justement, on parle aussi d'un aspect de fidélisation. En tout cas, c'est mon cas. S'il y a un endroit qui est très accessible, je vais avoir tendance à y retourner.
C'est ça,
beaucoup.
Voilà.
Comment s'établissent vos critères? Qui peut devenir éligible à ce prix?
C'est vraiment ça qu'on une rampe d'accès, si on fait une construction de rampe d'accès ou si c'est une nouvelle construction, ben là, on va aller un peu plus loin. Les stationnements, la toilette, il y a ce bord d'appui, la laser, l'espace de transfert entre la toilette et, je vais dire, un mur, là.
Mm-hmm.
L'espace de transfert, fait qu'on y va vraiment avec ça, puis ensuite, c'est l'accueil aussi. L'accueil est très, très important parce que nous, on nos personnes de café qui viennent ici, dans le fond, nos membres, c'est les handicaps de toutes sortes. Donc, c'est autant au niveau de la sourdité, au niveau de l'œil, au niveau de la déficience intellectuelle ou au niveau de la déficience physique. Fait qu'il faut aller avec tout ce monde-là. Mais, fait que c'est ça, il faut aller chercher tous les petits points. Mais le critère premier, c'est vraiment qu'on puisse rentrer dans le magasin ou dans le soit un salon de coiffure ou quoi que ce soit. Puis ensuite, on regarde la salle de bain et tout.
Mm-hmm. Vous offrez justement un répertoire de lieux accessibles sur votre site web.
Oui. Donc ça, c'est tout nouveau. De l'année passée, on a fait un lancement qui est accès-otiamaska.ca. Donc les gens qui veulent aller, qui veulent venir à Granby, bien, qui veulent savoir où il y a les endroits accessibles, donc ils sont identifiés là-dessus. Et là, il est terminé, mais il est toujours en mise à jour. On sait que les commerces, il y en a qui ferment, il y en a qui font des changements. Il y en a qui sont pas là. Ben, nous, on dit comment ça se fait, je suis pas là. Ben, vous étiez pas accessible. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aide? Parce que souvent, c'est ça qu'il y en a qui nous manquent. Qu'est-ce que je peux faire pour être accessible?
Mm-hmm.
Il y a un endroit même, il y a comme une marge dans son petit restaurant. Puis, ce qu'elle dit, si j'ai des gens en fauteuil, je descends une table à tel coin. Puis, tu sais, on n'est pas défusé non plus. On n'est pas trop loin. On est avec les gens, mais on est comme en bas de la petite marque.
Mm-hmm.
Donc, les gens essaient au moins, dans le plus qu'ils peuvent, de faire quelque chose. Déjà, ça, c'est un critère important pour le prix orange. C'est qu'est-ce qu'eux peuvent faire s'ils ne sont pas accessibles en dedans, surtout. C'est quoi qu'ils peuvent faire pour... Ça, c'est ça qui est important.
Tout à fait.
Ils ont une pensée positive, là.
Oui, oui, une ouverture ou une pensée à accommoder les gens. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que les élus de votre région sont à l'écoute des préoccupations des personnes en situation de handicap?
Moi, je dirais que oui. Ils sont à l'écoute, ils entendent, mais il y a toujours des problèmes au niveau financier. Des fois, c'est l'infrastructure qu'il faut adéquat pour faire certaines adaptations. Donc, mais c'est sûr qu'ils nous écoutent. Je veux dire, là, c'est pas parfait. Il y a toujours de l'amélioration à faire. Il y a toujours des nouveaux. Il faut toujours le rappeler parce qu'ils oublient.
Mm-hmm.
Mais c'est bien. On a une belle collaboration, ça, je pourrais dire.
Vous êtes, Mme Bédard, en ce moment dans une campagne de financement.
Oui.
Intitulé « Par la force de nos différences »,
oui,
qui a débuté il y a un mois exactement.
Oui.
Et donc, qui dure 3 mois. C'est quoi vos objectifs? Quel est exactement cette campagne?
Bien, la campagne, en fond, c'est qu'on se positionne dans certains endroits. On a trois places qu'on va être situés pour vendre des produits promotionnels et tout ça. Et durant les 3 mois, les gens peuvent se procurer nos articles via... soit nous appeler ou via Internet prochainement. On est en train de l'explorer, là. Il est en construction, cette partie-là, pour que les gens aient un bon commande pour aller commander par Internet, là, tous les articles. Donc, on essaie de voir là, pour aller chercher des sous. Puis on aimerait ça ramasser à peu près 2 000 à 2 500 $. Ça serait pas mal notre budget cette année qu'on
a ramassé. Ou, très, très rapidement, en quelques mots, où en êtes-vous en ce moment sur ce 2 000 $ à ramasser?
Là, présentement, on a 1 200 $ de ramasser. Puis là, on s'en va 2 jours, là, cette semaine, en fin de la semaine, justement, là, pour être nos 2 jours chez Provigo, sur la rue, sur le boulevard Leclerc, ouest à Granby. Donc, s'il y en a qui veulent venir se promener en région, eh bien, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, Martine Bédard, coordonnatrice de la dynamique des handicapés de Granby. Merci d'avoir pris quelques minutes de nous parler aujourd'hui.
Bien, merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Alors, faire parler de nous et faire falloir notre position.
Merci beaucoup.
Bien, merci. Bonne journée.
Bonne journée. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, Martine Bédard, Elsa Lavigne du projet Choisir de gagner, Gérald Cousineau, et on avait commencé l'émission avec Hélène Champagne du comité provincial du programme PAIRE. Demain, on aborde la question des accommodements raisonnables pour les personnes en situation de handicap vivant en copropriété.